cry. Well, it's a sign when the sun is not there. Well, it's a sign when the cat has disappeared. Well, it's a sign when your best friends don't like you anymore. Don't wait for me, I'll be on the other side. Don't say sorry before you drag me down. It's too late for me, 'cause I've opened up my eyes. There's no good in goodbye. I heard it by your tone, you were running out of time. It's a shame, 'cause you're beautiful when you're mine. When it's a sign when the sun is not there. When it's a sign when the cat has
pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir, combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Et grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Et grâce à vous, ma flamme s'est allumée. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire.
Ne veut pas de nous, non. Ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr. Mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr. Comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr. Mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr. Comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé.
Si jamais t'as peur, aie confiance en moi. Ta douleur, tu verras, ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse.
On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan.
Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé.
Je suis tombé, je suis
qu'il faut quitter Paris. Faudrait que je me barre ailleurs, mais je me lève plus de mon lit. Pour le train, je serai pas à l'heure. J'entends même plus les on-dit. Les yeux sont des haut-parleurs. Suis-je Mathilde ou Oshi? Pour les deux, je suis pas d'humeur. Même si je t'appelle pas assez souvent, y'a que ta voix qui me console pourtant. Je me noie entre passé et présent. Je suis pas née au bon moment. C'était mieux avant, Babouchka. Parle-moi du bon vieux temps. Et pourquoi je me perds dans la masse? Je voudrais faire un casse, braquer le cœur des gens.
Mon enfant, écoute, Babouchka. Moi aussi j'ai voulu tout quitter autrefois. Chacun cherche sa place, mais la vie nous dépasse. Aujourd'hui comme avant,
c'était mieux avant, Babouchka. Parle-moi du bon vieux temps. Et pourquoi je me perds dans la masse? Je voudrais faire un casse, braquer le cœur des gens.
Mon enfant, écoute, Babouchka. Moi aussi j'ai voulu tout quitter autrefois. Chacun cherche sa place, mais la vie nous dépasse. Aujourd'hui comme avant.
Toi t'es né sous les bombes, je meurs dans le vacarme des bars. Je me bats contre des ombres. Toi tu parles de moi comme d'une star. Ah, tu me suis à la seconde. Tu me vois même dans le noir. Plus forte que la Joconde, tu me lâches jamais du regard. Je voudrais voyager dans ta mémoire. Un aller-retour pour comprendre l'histoire. Aujourd'hui mon petit cœur broie du noir. Je veux pas grandir mais va bien falloir. C'était mieux avant, Babouchka. Parle-moi du bon vieux temps. Et pourquoi je me perds dans la masse? Je voudrais faire un casse, braquer le cœur des gens.
Mon enfant, écoute, Babouchka. Moi aussi j'ai voulu tout quitter autrefois. Chacun cherche sa place, mais la vie nous dépasse. Aujourd'hui comme avant.
C'était mieux avant, Babouchka. Parle-moi du bon vieux temps. Et pourquoi je me perds dans la masse? Je voudrais faire un casse, braquer le cœur des gens.
Mon enfant, écoute, Babouchka. Moi aussi j'ai voulu tout quitter autrefois. Chacun cherche sa place, mais la vie nous dépasse. Aujourd'hui comme avant.
Dis-ce que c'était mieux avant? C'était mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant?
Dis-moi, dis-moi.
Dis, est-ce que c'était mieux avant?
Est-ce que c'était mieux avant?
C'était mieux avant.
C'était fort mal.
Est-ce que c'était
mieux avant? Allez, danse. Viens, on oublie tout. Eh ben, on va danser.
Dis-moi, dis-moi.
Allez, on danse.
Dis,
allez, on danse.
Est-ce que c'était mieux
allez, on
avant?
Danse.
C'était mieux avant.
C'était bien avant.
Est-ce que c'était mieux avant?
Ça sera mieux après.
Dis-moi, dis-moi.
Dis que c'était mieux avant. C'était mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant?
Thank you. I see the girls go by dressed in their summer clothes. disais, je dois prendre un train, il s'agit de quitter les hommes. Pour m'en aller avec les chiens au hasard que la vie me donne. Que la vie me donne. On l'aurait découpé en tranches que chaque tranche aurait voulu fuir. Entre des planches qu'il aurait quand même su partir. Il aurait su partir. Il avait déserté sans doute une armée de frères en déroute. Ici pas d'arbre pour le pendre et plus d'eau. Même si j'ai la pierre fendre sans peut circuler. Le sang peut circuler. La femme à qui il a menti, une main levée au ciel. La mec sous son manteau gris, elle avait cru voir comme des ailes. J'aime quand la lune est un poignard aiguisé. Elle transperce les pierres une à une jusqu'à les faire saigner. Jusqu'à les faire saigner. Ils ont renoncé.
Vous êtes sur Ozone FM 99.7.
Et toi et moi, on... Nous sommes partis le 15 mai des sources de la Vienne à Saint-Sétier sur le plateau de Millevaches.
Et nous marchons jusqu'à sa confluence à Cannes-Saint-Martin, où la Vienne rejoint la Loire, dans la plaine de Touraine. Faut-il encore aller dans le sens du courant ? Une marche exploratoire de l'artiste Cécile Pitois et du journaliste Nicolas Beublet. Pour ce quatrième épisode des Carnets de Vienne, notre déambulation se passe à Limoges. La capitale du Limousin, plus grande agglomération urbaine sur la Vienne, a un fort passé industriel avec la rivière. Et dans le quartier des Ponts, appelé quartier des Ponticots, la population ouvrière de la ville a façonné une identité à part avec la Vienne. Pour rencontrer l'un de ces Ponticots, j'ai voulu anticiper. J'ai envoyé des mails, passé quelques coups de fil. On m'a assuré qu'il n'existait plus de vrais Ponticots. Mais moi, je ne suis pas passéiste. Je veux juste trouver quelqu'un qui habite ce quartier depuis suffisamment longtemps pour m'en parler. Et puisque je ne peux pas passer ici sans essayer d'en trouver un, le début de ma quête m'emmène dans un café, aux côtés de Marie et Jean-Jacques, rencontrés en chemin.
Un jour, il est tombé malheureusement, mais on a revu sa fille après qui nous a dit qu'il allait bien, qu'il était chez lui de nouveau, et qu'il marchait de l'autre côté. Du coup, il ne marchait pas dans le même sens que nous maintenant, mais on ne l'a pas revu depuis. Je vais essayer de reprendre des contacts et puis je peux te tenir au courant si tu vois. On peut se tutoyer, excuse-moi, mais ça me gêne de vous. Je suis plus dans les deux sens, hein, parce que là, ça me gêne de vous voyer tout le temps.
Je viens des sources de la Vienne exprès.
Il marche le long de la Vienne.
Et pourquoi vous n'allez pas carrément à l'endroit ?
Où ça ?
Au Ponticot, au Pont Saint-Étienne.
Mais on en vient.
Mais il n'y a pas de café.
C'est dimanche aujourd'hui.
Non, mais il y a le café de restaurant, mais les gens du restaurant, ils n'ont pas.
Il y a certainement des anciens qui vont au restaurant.
Laissez-moi tout. Je ne peux pas le faire à la place.
Ah si, vous pouvez m'aider.
Robert, Jean-Jacques, le prénom du monsieur, Robert Billardeau. Comment il s'appelle ce monsieur ? C'est vrai, son prénom. J'essaierai d'aller voir tout à l'heure si je vois sa fille. Parce que lui, il est vraiment typique du coin, puis il a l'accent. Enfin, il aurait plein de choses à raconter, je pense, ce monsieur. Il habite là depuis des années.
Le lendemain, Aurélien Gendillou, guide conférencier de l'Office de tourisme, nous conduit en bord de Vienne, dans ce fameux quartier des Ponts.
Une urbanisation des bords de Vienne, avant la révolution industrielle, c'est pas quelque chose qui est extrêmement, comment dire, extrêmement présent. Après, donc, c'est toute l'apparition du quartier qu'on appelait des Ponticots, le quartier des Ponts. Il y a cette proximité-là avec la Vienne qui est importante, avec les ponts. Et moi, j'ai des grands-parents qui sont nés dans ces rues.
Ils sont quoi ?
J'ai trouvé un extrait d'acte de naissance de mes grands-parents. Ils sont nés rue du Clos Sainte-Marie. On y est, là. Oui, ils étaient Limougeaux, enfin, ils étaient surtout Ponticots. Ils étaient Ponticots parce que en haut, là, plus les quartiers de la bourgeoisie, c'était ceux de la ville, qu'on appelait les Villots. Il y avait vraiment une opposition entre les Villots ou les Ponticots. Et ce qui montre bien d'ailleurs que quand on était Ponticots, on était souvent là avec l'exode rural, puisque c'était ceux de la ville. Donc c'est que par opposition, on n'en faisait pas partie. La Vienne les faisait travailler, parce que c'était des hommes de feu, donc ça pouvait être des porceliniers, ça pouvait être aussi des naftos. Il y avait le port du Navet à Limoges. Alors, port du Navet, N-A-V-E-I-X, hein, d'accord. Rien à voir avec le légume. Ce port du Navet, il récupérait le bois. Alors, le bois qui partait du plateau de Millevaches. Et donc, il va suivre la Vienne. Donc, petit à petit, oui, le bois descendait et était récupéré. Les Ponticots pouvaient avoir un bateau, hein, à fond plat et un compte, c'est-à-dire une grande perche qui leur servait à récupérer le bois, à le placer ensuite sur la rive. Il pouvait y avoir l'équivalent de plusieurs étages de bois qui ensuite partaient dans les manufactures qui l'avaient acheté. Les femmes, elles, étaient lavandières, beaucoup. Voilà, c'est-à-dire qu'elles lavaient le linge des vilots, justement. Elles lavaient le linge chez elles. Et puis après, le rincer, hein, dans la... aller le battre, hein, ce qu'on appelait le peiteux, un genre de battoir. Vous voyez, en bois, elles allaient le frapper pour enlever l'excédent de lessive, le rincer dans la Vienne. Et donc, tout le chemin là, que l'on a fait, mais il faut s'imaginer aussi que c'était des dizaines de mètres de fil à linge, ici. Voilà, beaucoup de fil à linge, et un linge qui allait ensuite remonter jusque sur les hauteurs de la ville. Mais vu le relief et les escaliers, il n'y avait pas de charrette. C'est-à-dire que c'était des ballots de linge, d'accord, des lavandières qui allaient se retrouver avec un bandeau sur le front pour retenir le baluchon dans le dos et qui montaient comme ça jusque sur les hauteurs de la ville. Donc c'était quand même un métier extrêmement, extrêmement physique. On a ce qu'on appelle l'Université Populaire du Pont Saint-Étienne, l'UP. C'était un endroit où c'est une association, donc moyennant une légère adhésion, vous aviez accès à des cours, à une bibliothèque, des médecins aussi qui organisaient des conférences.
Comme ça, à quelle époque?
Là, on est. Elle était créée début du XXe siècle, les années 1900, on va déjà avoir l'université du Pont-Saint-Étienne. Donc, on allait informer les ouvriers sur les dangers liés à leur travail. On parle beaucoup de la silicose, par exemple, quand on parle des mineurs de charbon. Mais alors, le charbon est présent dans les fours, mais la silice, c'est la poussière aussi, dans la poussière de la porcelaine. On va retrouver cette silice qui remplit les poumons. On va leur parler aussi des méfaits de l'alcool, parce que forcément, près d'un four, on se déshydrate beaucoup, vous voyez, près d'un four chauffé à 1300 degrés pendant 2 jours. Donc, voilà, là, c'était beaucoup. Alors, du vin coupé d'eau, certes, mais bon, du vin quand même, parce qu'on était dans une époque où on considérait le vin comme un fortifiant, comme une nourriture. On n'avait pas du tout le même rapport à l'alcool. Et tout ça faisait que l'espérance de vie d'un homme de feu, un homme qui passait sa carrière près des fours, c'était 35 ans. 35 ans d'espérance de vie, vous voyez. Je vous dis, quand on était vilo, on venait pas trop par ici. De toute façon, il y avait bien quelques ponticos pour jouer les gros bras sur les ponts et vous dire si tout ça est des ponts passo, si tout ça est des lo vilo, à la higo. À savoir, si tout ça est des ponts passo, si tu es des ponts passe, si tout ça est des lo vilo, à la higo, si tu es de la ville, à l'eau. On te jette à l'eau. Alors, je sais pas si la menace a été mise à exécution ou pas, ça me surprendrait pas outre mesure, mais vous voyez, ce serait. C'était vraiment un endroit bien, bien spécial, c'était vraiment les Ponticos, c'était une identité de quartier, vraiment.
Est-ce qu'on sait estimer le nombre de populations qui vivaient, qui vivaient ici?
Non, j'ai pas de chiffres précis à vous donner là par contre.
Ni la masse ouvrière
Alors, c'était uniquement des ouvriers, ici, voilà, il n'y a pas de...
Ah oui, non, je veux dire...
Une cité sociale de ce côté-là, hein. c'était un quartier ouvrier.
Non, je veux dire la proportion d'ouvriers dans la population de Limoges au plus fort de l'industrialisation de la ville.
Alors, j'ai pas vraiment un pourcentage. Ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a 92 000 habitants, on a déjà au moins 15 000 personnes qui travaillent dans le domaine de la porcelaine. Et je ne parle pas donc des autres industries, les chaussures, par exemple. C'était... pourcentage très très élevé. Après, j'ai pas de pourcentage particulier, mais c'était certainement une forte majorité. Oui.
Une fois la visite terminée, je poursuis ma quête dans un rayon restreint autour du pont Saint-Étienne, cœur historique du quartier.
Il faut peut-être persister, on n'a pas toujours tout au premier coup dans la vie.
Non. Vous savez, un journaliste est...
Ouais, il a jamais, non.
Il a jamais tout du
premier coup. Donc il faut persister, essayer de...
Tout à fait.
J'ai confiance, vous allez réussir.
Mesdames, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis journaliste, je descends la Vienne à pied et je cherche des ponticos.
Je me demande si le voisin, tu sais par où on est descendu là, que je t'ai fait voir le jardin de Michel, là, je me demande si... Parce que lui, ça fait tellement longtemps qu'il habite là. Ah, je sais pas. Mais on va passer par là, Josette. Oui. Je vais lui faire voir. Oui. Peut-être que Michel, on va le voir dans son jardin, je sais pas. Mais les ponticos, je sais pas s'il en reste beaucoup, en fait. Hein.
Parce qu'ils auraient quel âge? Ils auraient 90, 100 ans?
Oh oui, ah oui, les vrais ponticos, oui. Je sais pas, peut-être que si je vois Michel là, je peux lui demander, mais j'en suis pas sûre. Hein.
Chut,
la sœur de Pascal.
Donc il me dit qu'il y aurait des... Là-bas où on était, où il y avait le Saint-Étienne et le Pontico, un restaurant qui s'appelle le Pontico.
Ah ouais, mais on peut pas la caresser,
il m'a dit qu'il y aurait des gens par là qui habitent, ouais. Qui... des anciens de... qui ont... Non. Donc ces gens-là, vous me dites, ils habitent vers le Pontico.
Vers le Pontico, oui.
Ok.
Vers le coiffeur.
S'il vous plaît.
Je cherche des ponticots. Oui, oui. Je cherche des ponticots. Des ponticots.
Alors, en face, et après, vous continuez dans notre petite maison là-bas. Dans le quartier là, vous avez trouvé d'autres.
Ok. Bon, bah, je vais revenir demain matin, ce sera mieux que ce soir alors.
Ben oui.
Pour sonner.
Mercredi, 9h du matin, je sonne chez Denise, le dos courbé dans son potager. Elle interrompt ses activités pour me parler de son quartier.
On aurait pu rentrer, remarquer, c'est pas fait bon. Oui.
Oh, moi, ça me va.
Bon, eh ben. Oh, mais il y a peut-être quelqu'un, je sais pas, dans le quartier, voilà, je sais pas, oui. Qui saurait peut-être mieux que moi. Surtout que moi, maintenant, j'ai vieilli aussi. Il y a des choses que je ne me rappelle pas.
Vous êtes arrivée en quelle année dans ce quartier?
Eh bien, nous sommes arrivés en... Que je dise pas de bêtises. En 66, je pense. 65 ou... Vous voyez, je ne m'en rappelle même plus. Mais 65-66. 65, non, c'est pas... Je crois pas que ça soit... Ah, oh, peut-être que si. En avril. 65... Non, c'est 66. J'y reviens maintenant, ça c'est plus sûr. En 66,
ça
oui.
Ça fait 60 ans.
Oui, presque, oui. Parce que, et quand je suis venue là, eh bien, on avait visité, mais c'était pas ici, c'était dans le petit chemin là-bas, une maison pour venir habiter à Limoges. Et quand on est parti, j'ai dit à mon mari, tu sais, on va pas y rester longtemps là. Hein. Parce que quand on est arrivé là, c'était pas comme c'est maintenant. Voyez-vous.
Décrivez-nous comment c'était.
Ben c'était. Il y avait les nouilles qui couraient dans le chemin là-bas, le petit chemin qui monte entre les maisons là-bas, à côté de chez Madame de Nardou.
C'est quoi les nouilles?
Les pâtes. Vous savez pas ce que c'est les nouilles? Ben c'est des pâtes. Parce que les gens, ils avaient leur machin, il y avait une dame un peu plus haut, en haut du petit chemin là. Quand elle faisait, puis elle le vidait dans la rue à cette époque, il n'y avait pas tout à l'égout. Alors ça courait là-dessus, alors vous imaginez un peu si ça faisait propre. Ça me parlait d'autre chose, parce qu'elle habitait un peu dans le tournant, et c'est souvent que moi j'étais montée laver, ou mettre de la javel, parce qu'elle avait mis ou du pipi, ou je sais pas quoi, tout ce qu'elle pouvait.
Et qu'est-ce qui restait alors de l'identité du quartier Pontico, déjà, quand vous êtes arrivée en 1966?
Ah ben les gens qui y avaient vécu là, il y avait des gens qui étaient anciens quand même, qui avaient vécu là longtemps aussi, et ben il y avait la pêche, ils pêchaient de temps en temps quand ils en avaient envie, quand ils ne travaillaient pas ou autre, mais ils pêchaient. Oh, même aujourd'hui encore, il y a la pêche. Il y a bien certains pêcheurs. Et puis, c'était pas la vie qui est aujourd'hui. Il n'y avait pas tous ces gens qui défilaient là, en se promenant. Là. Parce que vous verriez l'après-midi, là, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la fête. Remarquez, c'est agréable aussi, c'est ça. C'est très... Et puis on peut aller très loin. On peut, en montant par en haut, on va jusqu'au palais. À
ben j'en viens.
Ah ben voyez, que vous êtes au courant. Ben voilà, oui, enfin, ça a changé évidemment et ça va changer encore plus parce qu'ils ont amélioré de l'autre côté là-bas. Et c'est très bien d'ailleurs. C'est plus large, c'est plus... Et puis c'est moins dangereux parce qu'il n'y avait rien qui protégeait les enfants de tomber en courant dans le petit chemin qu'il y avait avant, dans la Vienne ou autre. Il n'y avait pas de... rien qui protégeait, quoi. Que là, maintenant, ils ont mis des grilles, quand même, c'est fermé.
Mais est-ce que à force de rendre le lieu très agréable et d'en faire un peu le poumon vert de la ville de Limoges, est-ce que le quartier change aussi d'habitants et est-ce
c'est pas la même vie. C'est pas du tout la même vie. Avant, ils étaient enfin, les uns chez les autres. Enfin, même encore, il y a encore quand même une certaine attitude les uns envers les autres. Mais c'est pas la même chose que c'était avant, c'est sûr. C'est sûr. Puis la vie n'était pas la même aussi. Alors tout change en même temps. Et puis alors maintenant, c'est la promenade, là, c'est la grande promenade. Ah, des fois, c'est à pleine rue en début d'après-midi, là, quand il fait beau. Mon prénom, Denise.
Donc Denise, oui. Habitante depuis presque 60 ans.
Voilà, oui, parce que mon fils est né presque un an ou deux ans. Non, un an après. Il va avoir 59 ans d'ailleurs. Eh bien, on était là, enfin, vous voyez, oui, ça va faire dans pas longtemps, 60 ans.
Et vous étiez arrivée à quel âge ?
Ah, oh, ben j'avais 20... je sais pas, j'étais que mariée. 22, 20... 21 par là, 21. Oh, j'avais peut-être pas 22 ans. Peut-être que si. C'était en 65. Et moi, je suis née en 41. Alors voilà.
Je sais tout alors.
Vous savez tout. Et cette année, je vais avoir 84 ans. Alors voyez, eh, ça tourne.
Et le jardin est bien entretenu.
Et comment ?
Le jardin est bien entretenu,
ah
donc
ben,
c'est que
oui,
la forme va bien.
J'aime bien, oui, j'aime bien. J'adore. S'il fait beau, moi je suis pas dans la maison. Hein. Je suis dehors. La Vienne, elle débordait aussi. Chose, il y a longtemps que c'est pas arrivé. C'était arrivé la première année qu'on avait acheté là. Et depuis, ça a remonté un petit peu, mais pas comme ça. Parce que ce coup-là, elle montait en haut des escaliers, là. Et dans la rue, partout. Jusque plus haut, là-bas. Mais maintenant, ça se produit beaucoup moins. Ils ont fait capter un peu, ils ont fait des barrages, je sais pas trop quoi. Alors, il la manipule un petit peu, quoi.
Elle est régulée, on va dire.
Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom, mais ça venait pas. Oui, il le règle un peu quand même, quand ça pleut trop fort. Il arrange ça, heureusement. Parce que c'est pas marrant, hein. Ouh là là. Et la nuit, ça faisait un bruit. Oh, ce bruit. Voilà.
Bah merci, Denise.
Eh ben,
bonne journée.
Vous en prie, bonne journée à vous.
Et maintenant, voici le contrepoint de Cécile lors de sa traversée du paysage.
Alors, en fait, je suis dans un drôle d'endroit. Alors, vous entendez un écho. Pourquoi cet écho ? Parce que je suis sous un pont. Voilà, il y a un petit ruisseau qui passe à côté et j'aime bien le son. Alors, là, j'avais envie de vous parler des cartes. Des cartes et de l'orientation en général. Car on fait beaucoup de demi-tours. Souvent, on veut s'économiser, mais finalement, on fait plus de kilomètres que prévu. Et souvent, on est avec nos cartes. Et puis, avec Nicolas, parfois, moi j'ai une carte et lui il a une copie ou bien nos GPS. Mais en tout cas, quand on a les cartes, on n'a pas du tout la même manière de lire les cartes. Donc Nicolas, il tourne sans arrêt sa carte comme une orientation dans le sens de sa marche. Tandis que moi, je garde des cartes toujours... au nord. Bon, là, je sors du pont parce qu'il y a des voitures, alors je me dis que c'est peut-être dangereux. Et donc, je vais passer à travers la route. Me voilà en sécurité. Et donc, voilà, je disais, Nicolas va tourner sa carte et moi, je la laisse au nord. Et une fois, il me dit, mais non, ça va pas du tout, Cécile, il faut tourner ta carte. Je dis, mais non, j'ai pas besoin de tourner ma carte parce que je sais où est le nord, quoi. Et il me dit, dans ces cas-là, il faut trouver le nord et orienter ta carte vers le nord. Mais je lui dis, non, c'est dans ma tête que je fais la translation. Passons. Le soir arrivant, j'en reparle à Mathieu, donc la personne qui nous suit en camion et que vous entendrez bientôt sur les lignes. Et il me dit, mais Cécile, c'est juste la différence d'âge. Alors, je n'avais pas précisé, on a 30 ans d'écart avec Nicolas. Et il me dit, lui, il est né à une époque où où en fait il a pris les cartes sur un téléphone et en fait il fonctionne un peu comme un GPS. Donc c'est pour ça qu'il tourne les cartes pour s'orienter. Alors j'avais déjà vu cette pratique, mais c'est vrai qu'en fait les gens de ma génération ont à part exception, mais en général la translation se fait dans le cerveau, et je pense que maintenant voilà, c'est un apprentissage différent. C'est pas mieux, pas moins bien, mais en tout cas, c'était assez drôle, quoi. Donc voilà, en tout cas, lui comme moi, lorsqu'on est ensemble ou lorsqu'on est séparés, on se retrouve et c'est parfait. Mais bon, voilà, c'était un petit point cartographique.
Juste après Limoges, et je me retrouve sur un camping au bord de la Vienne. Et je repense par rapport à l'orientation aux oiseaux migrateurs qui m'avaient déjà posé question par rapport à l'effacement du lac à Perlevade, sachant que c'est actuellement une zone humide et que les oiseaux migrateurs qui avaient l'habitude de venir autour de ce lac vont plus voir le lac, vu qu'il n'existe plus. Donc ça, c'était un podcast précédent. Et je voulais revenir en fait sur, on va dire, la sensation, l'émotion, et on va dire le savoir un peu empirique que l'on peut avoir en marchant. Et je suis tombée sur un article que j'ai trouvé vraiment intéressant à propos des oiseaux et leur orientation. Alors je vais vous lire un passage. Alors, attendez, il faut que j'ouvre le portable, que je trouve le texte. Voilà, c'est bon. Des protéines spécialisées appelées cryptochromes présentes dans les yeux des oiseaux forment des paires d'électrons enchevêtrés lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil. Ces électrons intriqués réagissent différemment en fonction de l'orientation du champ magnétique terrestre, ce qui donne aux oiseaux une représentation visuelle des schémas magnétiques. Ce mécanisme étonnant permet une navigation précise à travers les continents sans avoir besoin de repères visuels. Alors, voilà pour ce petit passage. Et je me dis que quelque part, nous les hommes, il y a peut-être bien longtemps, on avait sûrement d'autres capteurs comme ça, ou en tout cas des moyens pour s'orienter, et peut-être qu'avec toutes les techniques qui nous accompagnent, on les perd peut-être petit à petit. Bon, il nous reste toujours quand même le lever et le coucher du soleil, donc c'est une bonne nouvelle.
Merci d'avoir écouté ce carnet de Vienne réalisé à partir de la traversée du paysage de Nicolas Beublé et Cécile Pitois. Retrouvez les prochains épisodes sur vos radios associatives préférées, les plateformes de streaming ou notre audioblog Arte, un projet porté par l'intention publique.
Écoutez Ondes FM sur le 99.7. Sur Ondes FM, on passe les meilleures journées.
Je me donne du mal, je fais le maximum. J'en fais des tas, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Pour trouver ma voie, y mettre les formes. Je casse, fracasse sans m'écrouler sous la masse. Je construis, détruis, mais jamais ne me lasse. Je n'ai pas peur des erreurs, elles me façonnent. Et un jour devoir se dire... J'abjure et je conjure. Je ne suis pas aux normes, je ne suis pas à faune. Je hurle, je brûle, fume et me consume. Quand je monte des monts sans jamais rendre de compte. Je me donne du mal, je fais le maximum. J'en fais des tas, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Et un jour pouvoir se dire que ça décolle. Je pousse les choses au maximum. Que ça décolle. Aucune pause ni ultimatum.
observer des cortiques. Autant de temps passé quand me vient le déclic. Je passe, repasse, je file et se défile. Toutes ces choses si possibles, laissez-moi si facile. Je me donne du mal, je fais le maximum. J'en fais des tas, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Et un jour pouvoir me dire que ça décolle. Je pousse les choses au maximum. Que ça décolle. Aucune pause ni ultimatum. La 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 la. Je me donne du mal, je fais le maximum. J'en fais des tonnes, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Pour trouver ma voie, y mettre les formes. Sans m'écrouler sous la masse, je construis, détruis, mais jamais la menace. J'ai pas peur des erreurs, elles me façonnent. Et un jour pouvoir me dire que ça décolle. Que ça décolle.
Ratata, c'est Ozone FM.